16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission où l'on vous raconte l'histoire sans jamais se raconter. Deux heures où la gaieté, le dispute à l'érudition, en compagnie de mon fidèle complice Mathieu Noël. Bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane. Et c'est vrai qu'Historiquement vôtre est un peu un orni, un objet radiophonique non identifié, où la rigueur historique n'empêche pas la déconne. À cet égard, notre émission du jour est emblématique de ce qu'on essaye de faire ici, puisque nous allons évoquer un accessoire sur lequel Jules Michelet a peu écrit, qui est rarement tombé, il faut le dire, à la grecque histoire. Cet accessoire, c'est votre truc en plume, Stéphane, mais pas seulement.
Aujourd'hui, nous partons. Oh, ça m'émeut beaucoup d'entendre Zizi Jean-Merve qui nous a quittés.
C'est vrai, elle aussi.
Oui, ils vont tous nous quitter. Mais aujourd'hui, nous partons. Alors.
Mais néanmoins, nous sommes quand même partis pour deux heures de bonne humeur, Stéphane. C'est important de le rappeler aussi pour ceux qui ont la chance de rester en vie. Il y en a quelques-uns qui nous écoutent.
Écoutez, restez en vie au moins pendant les deux prochaines heures. Après, c'est moins grave. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de trois personnages qui arborait des plumes avec panache.
Oh oui.
Lui en arborait fièrement une sur le haut du front, le chef indien Sitting Bull, à la fois guerrier et guérisseur. Je vous raconte sa vie dans un instant. Elle avait des plumes et, comme elle le disait en chanson, de belles gambettes, c'est vrai. Je vous raconte l'histoire de la star du musical des années folles, Miss Tinguette. De votre côté, Mathieu, vous nous prouverez que la plume reste en 2021 un accessoire tendance en nous brossant le portrait d'une figure de la nuit encore parmi nous.
Mais pour combien de temps, ajoutiez-vous, non sans perfidie, Stéphane, ce qui est dégueulasse. Personnellement, je vous le dis, c'est dégueulasse.
C'est
oui,
vous,
Stéphane.
C'est vous qui avez dit il ne faudrait pas la diffuser dans trop peu de temps. Si vous l'avez dit, on l'a enregistré.
Je quitte ce studio, c'est une honte, j'adore. Régine, nous allons parler de Régine, qui est bon pied, bon oeil, Régine, en pleine forme, on l'embrasse.
Et elle chante, au début, j'étais pétrifié. Vous savez, quand elle a chanté.
Nous l'entendons, évidemment, parce qu'elle a chanté et elle a tenu parole. Je survivrai.
Non, mais on l'adore. Heureusement qu'on. Vous imaginez si on l'aimait pas? Et avec nous.
Oui, j'imagine mal.
Midi,
mais...
Clémentine Bortier-Caltenma qui nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde.
Bonjour, messieurs. Et pour vous parler aujourd'hui d'une autre plume, en vous citant cette célèbre phrase du théâtre français, qu'allait-il faire dans cette galère? Vous connaissez bien sûr cette réplique de Molière dans Les Fourberies de Scapin, sauf que la phrase en question n'est pas de lui, mais de son ami Savinien de Cyrano, dit de Bergerac, dans sa pièce Le Pédant joué. Et Cyrano a bien existé, ça n'est pas qu'un personnage de théâtre. Qui fut-il au juste? Eh bien, je vous en dirai quelques mots tout à l'heure.
Le stylo plume que Cyrano a peut-être utilisé, ou il n'existait pas encore, je pense, à cette époque.
Que
il
non.
n'existait
oui,
pas du tout
bien.
Même. Hein, exactement. Mais le stylo plume a été inventé après tout, d'où l'excellente transition que je fais. Et c'est David Castello-Lopez qui nous raconte tous les jours l'origine d'un objet, qui nous raconte l'origine du stylo plume.
Ben oui, pour coller à la thématique de la mission sur
bien
les
sûr.
Plumes.
C'est pas faux, et nous allons le réaliser maintenant. Oui.
Nous allons partir en voyage aussi.
En voyage.
Un poulet tikka masala.
Ben moi aussi, je respecte la thématique des plumes.
Des plumes.
Le poulet, bien évidemment.
Il vaut mieux enlever les plumes quand on prépare le poulet tikka masala.
Oui, c'est meilleur. Mais alors là, un voyage avec des saveurs que j'adore, je ne sais pas pourquoi, je suis dingue de cette préparation.
Masala, tikka masala,
et je vous garantis une petite surprise quand même sur l'origine de cette recette. Je crois que je vais vous
dire. C'est auvergnat, le poulet tikka masala.
C'est on sait.
Et bien, figurez-vous que c'est au moins aussi surprenant que ça.
Non.
Parfait. Olivier Pouls nous met l'eau à la bouche.
Et enfin, les amis, aux alentours de 5h-10, nous nous réunirons autour de la dépouille de Stéphane Bern.
Oui.
À l'issue de Bern To Be Alive, ce quiz qui lui aura été une fois de plus fatal, et nous l'accompagnerons vers sa dernière demeure, le Panthéon des losers. Évidemment, Stéphane, mais tout de suite, un peu de sursis pour Stéphane. Nous allons d'abord évoquer Stéphane, un premier personnage à plume du jour. On a dit de lui qu'il était rusé comme un Sioux. Et Stéphane Bern nous raconte
bien.
Sitting Bull.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Oui, faisons un voyage ensemble, Mathieu, en plein cœur des États-Unis à l'aube du 19e siècle. Des dizaines de millions de bisons cavalent dans les grandes plaines d'Amérique du Nord, entre le Mississippi et les montagnes rocheuses. Derrière eux, des hommes, la peau rouge, des plumes sur le haut du front, chevauchent à leur poursuite. Ce sont les Sioux. Indien qui règne sur ces plaines et chasse l'animal car il mange du bison, porte des vêtements et des chaussures en bison et dorme dans des tipis
en bison.
Outre les bisons, les Sioux affrontent régulièrement d'autres tribus indiennes comme les Crows. Mais leurs plus grands ennemis, ce sont les Oisichoux, les Blancs qui colonisent leurs terres. Un Sioux va se distinguer dans la révolte contre l'envahisseur. On le surnomme Bison Assis. C'est dans l'actuel Dakota du Sud que le jeune membre de la tribu des Sioux Dakota voit le jour en 1831. Formé comme guérisseur, homme médecine, comme on dit aussi, il combat un croc à l'âge de 14 ans, ce qui lui vaut le surnom Tatanka Iyotake ou Sitting Bull, ainsi qu'une plume. Le surnom semble peser plus lourd que la plume, eh bien il n'en est rien. Parce que chez les Sioux, voyez-vous, se coiffer d'une plume signifie que l'on a accompli un acte de bravoure. Pas la plume de n'importe quel volatile, ce sont des aigles qu'arborent les aborigènes d'Amérique. L'aigle représente la sagesse et le pouvoir. Il est proche du créateur car vole près de lui. Les plumes sont peintes, taillées ou encochées suivant l'exploit réalisé. Les grands chefs portent des panaches de plumes qui peuvent descendre jusqu'aux pieds. Coiffé de ces actes de bravoure, Sitting Bull devient vite le chef de sa tribu et étend le territoire de chasse vers l'ouest. Mais en ce milieu du 19e siècle, le paysage change radicalement. Les Blancs traversent leurs terres en masse. Sont-ils désolés de piétiner les terres des Sioux? Point du tout. Dans leur esprit, ils sont chez eux et n'ont aucun espoir de civiliser cette bande d'Indiens. Alors forcément, les échauffourées se multiplient dans les années 1860. Sitting Bull, secondé par Crazy Horse, ne vous précipitez pas Mathieu, le cabaret du même nom arrivera bien plus tard.
Ah oui, mais c'est lui qui l'a inspiré, visiblement.
Oui, bien sûr, multiplie les raids. Les Blancs, de leur côté, déclarent la guerre aux bisons. Des millions d'animaux sont supprimés, les plaines sont recouvertes de carcasses en putréfaction. En 1868, les Sioux acceptent de faire la paix avec le gouvernement américain. Le second traité de Fort Laramie leur garantit une réserve dans le sud-ouest du Dakota du Sud. C'est confirmé. Les Black Hills, leur terre sacrée, là où reposent les âmes de leurs ancêtres, leur appartiennent. Mais vous savez, Mathieu, les traités de paix entre colons et indiens n'ont jamais duré très longtemps. Surtout qu'après la crise financière de 1873, le président américain Grant estime que l'économie a besoin d'or en abondance. C'est la ruée vers l'or. L'année suivante, on en trouve dans les Black Hills. 15 000 Blancs occupent alors le territoire des Sioux, violant le traité de paix sans vergogne. En 1876, la coupe est pleine. Sitting Bull réplique en coalisant les nations indiennes des Grandes Plaines contre ces faces de chiens qu'il appelle ainsi en raison de leur barbe. De son côté, le général George Armstrong Custer prend la tête du 7e régiment de cavalerie. À 36 ans, ce héros de la guerre de sécession est impatient de rehausser son prestige militaire déclinant. Le haut commandement qualifie Sioux et leurs alliés Cheyennes de nègres rouges, voleurs, ivrognes et bien sûr de sauvages. Au Montana, Sitting Bull prépare la guerre en dansant pendant 36 heures après s'être fait prélever 50 morceaux de chair sur chaque bras. Oh. La victoire, ça se mérite. Hein. Et la vision qui s'offre à lui après cette sacrée cérémonie la lui promet. Dimanche 25 juin 1876, au matin, les éclaireurs du 7e régiment de Custer repèrent Sitting Bull dans la gorge de la rivière Little Bighorn. Les Crocs qui combattent aux côtés des Américains préviennent Custer. Les Sioux sont bien trop nombreux. Le carnage démarre. Malgré leurs armes à feu, les soldats de Custer sont chassés comme des bisons à coups de massue, de couteaux et de flèches par les Sioux. Leurs cadavres sont ensuite mutilés, décapités, castrés et bien sûr scalpés. Parmi eux, le corps de Custer. Les Sioux ne le savent pas, mais ils viennent de tuer leur plus célèbre ennemi. Sitting Bull, victorieux bien qu'il n'ait pas pris part à la bataille, en même temps avec les deux bras mutilés, c'était un peu compliqué, craint les représailles. Il fait bien. Le général Miles se lance à ses trousses. Après des combats épuisants et des tentatives de paix ratées, les Sioux franchissent la frontière canadienne avant l'hiver. Sitting Bull les rejoint au printemps suivant. Il s'y lie d'amitié avec le major James Walsh de la police montée du Nord-Ouest. Ce dernier assure leur protection en échange du respect des lois canadiennes et de l'absence de raids de l'autre côté de la frontière. Lors d'une rencontre avec un général américain, Sitting Bull fume son calumet jusqu'à ce que la pièce empeste avant de se lever et de déclarer « Nous n'avons pas donné notre pays. Vous vous en êtes emparés. Emportez avec vous vos mensonges. Je resterai avec ce peuple. Le pays d'où nous venons nous appartenait. Vous nous l'avez pris. Nous vivrons ici. » Mais la situation ne peut s'éterniser. Le Canada est sous pression et les Sioux manquent de bisons. Les Américains déclenchent des incendies à la frontière pour empêcher les animaux de migrer au nord. Le peuple de Sitting Bull se retrouve contraint de manger ses chevaux et ses chiens. Il faut rentrer au pays. Lors de sa dernière rencontre avec Walsh, Sitting Bull lui offre sa coiffe de plumes. Il sait qu'il n'en aura plus besoin. Le chef Sioux est fait prisonnier de guerre jusqu'à ce que le gouvernement cesse de le considérer comme une menace. C'est alors que Sitting Bull rejoint Buffalo Bill.
La naissance des fameux Bull et Bill, Stéphane.
En 1885, non, Sitting Bull participe aux tournées du Wild West Show, ces drôles de spectacles itinérants qui font revivre le mythe de la conquête de l'Ouest. Ancêtres des westerns, ils ont un succès fou. Sitting Bull aussi. Le jugeant trop populaire et imprévisible, les autorités américaines lui ordonnent de retourner dans sa réserve de Standing Rock dans le Dakota du Nord. Depuis Standing Rock, Sitting Bull se bat contre les manigances du gouvernement qui extorquent des terres aux Indiens. En 1890, les allocations sont supprimées et les Indiens ont interdiction de chasser. La faim et le désespoir donnent naissance à un mouvement religieux, la danse des esprits qui promet une revanche sur les Blancs. Craignant un soulèvement, le général Miles ordonne l'arrestation de Sitting Bull. Pourtant non converti au mouvement, le chef des Sioux Lakota est coupable de l'avoir toléré. La tâche incombe à la police indienne, formée de Lakotas qui se sont retournés contre leur chef. Mais l'arrestation de Sitting Bull, qui se déroule d'abord dans le calme, prend une autre tournure. Lorsque Crowfoot, le fils du chef Sioux, crie à son père qu'il ne devrait pas se laisser faire. Les coups partent. Sitting Bull reçoit une première balle, puis une deuxième derrière la tête. Il s'effondre sur le sol enneigé, mort. Les Sioux s'enfuient par crainte d'être tués à leur tour. Deux semaines après la mort de leur chef, ils installent leur campement à Wounded Knee, en Dakota du Sud. Mais le 7e régiment, l'ancien régiment de Custer, se mobilise de l'autre côté de la colline. La cavalerie encercle les Sioux et les soldats installent quatre canons à feu roulant avec des obus explosifs, l'arme la plus récente de l'arsenal américain. Si l'enfer existe, il doit ressembler au champ de bataille de Wounded Knee. Les Indiens sont massacrés. Les cadavres des femmes et des enfants de la tribu Lakota jonchent le flanc de la colline. Le premier jour de l'an 1891, les soldats jettent les corps dans une fosse commune et se font photographier devant pour la postérité. Les récompenses pleuvent. Jamais autant de médailles d'honneur n'avaient été attribuées pour un seul combat. La mort de Custer est vengée. Wounded Knee sonne le glas des guerres indiennes dans les grandes plaines.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Sitting Bull, bison assis en français, vous verrez que ça claque un peu moins, nous sommes avec l'historien Farid Hammer. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Farid Hammer. Vous avez publié Sitting Bull, héros de la résistance indienne, réédité dans la collection Texto chez Talendier. Est-ce qu'il y a un acte de la vie de Sitting Bull en particulier qui a fait de lui définitivement un héros ?
Absolument. Pour la postérité, Sitting Bull est entré dans l'histoire, dans les annales de l'histoire américaine, pour avoir présidé à la coalition de Sioux et de Cheyenne, qui a été fatale à Custer et au 7e de cavalerie, qui était le fer de lance de la cavalerie américaine.
Est-ce que on peut le faire un parallèle avec un personnage qu'on évoquait l'autre jour, Vercingétorix, c'est-à-dire qu'il a réussi, Vercingétorix avait uni les tribus gauloises, lui il a uni un peu les Indiens contre l'envahisseur américain, entre guillemets. Est-ce qu'il y a un parallèle? Il y a aussi le parallèle de Gergovy, la victoire avec Little Bighorn,
et puis Alésia, qui soutiennent les Américains,
les crocs qui soutiennent,
alors
effectivement.
On avait aussi des tribus gauloises qui soutenaient les Romains.
Oui, c'est vrai que Sitting Bull est un personnage tout à fait fascinant et que pour l'histoire, il incarne vraiment l'archétype des Indiens des plaines, celui qui est épris de liberté, farouchement attaché à son mode de vie, très attaché à ses traditions. Après, alors pour faire le parallèle avec Vercingétorix, je vous avoue qu'en histoire gauloise, ce n'est pas tellement ma spécialité, mais en tout cas, ce qui est fascinant avec Sitting Bull, c'est que c'était un homme de conviction, sans concession, et je dirais même sans compromission, puisque la différence de la majorité des grands chefs indiens, lui, il n'a jamais signé le moindre traité.
Oui. Alors, la bataille la plus spectaculaire reste celle de Little Bighorn. Vous l'avez largement étudiée. Qu'est-ce qui vous a, vous, en étudiant cette bataille, le plus impressionné ou peut-être surpris ?
Alors, la bataille Little Bighorn, c'est le point culminant des guerres indiennes. Hein. C'est la défaite du 7e de cavalerie, la fine fleur de l'armée, et c'est aussi la mort de Custer. Custer qui était un héros de la guerre civile, qui était la coqueluche.
Il l'avait bien cherché. Hein.
tout à fait. Qui était la coqueluche du grand public. Et c'est vrai que ça a beaucoup choqué le public américain, puisque la nouvelle du désastre est parvenue donc dans l'est du pays le 4 juillet 1876, le jour où l'Amérique célébrait son centenaire. Donc, évidemment, c'était une nouvelle qui faisait tache.
Alors, Farid, La plume de Sitting Bull semble indissociable du héros. Aujourd'hui, il reste toujours représenté avec cette plume droite sur la tête. L'enlever, c'était s'avouer vaincu, finalement.
Alors, je voudrais juste être très, très clair sur cette histoire de plume. Oui. C'était un synonyme de pouvoir. Tous les Indiens ne portaient pas ces magnifiques parures de plumes qu'on voit dans les productions hollywoodiennes, dans les westerns notamment. Et alors, vous avez eu raison tout à l'heure de mentionner que l'aigle, dans l'imaginaire amérindien, ça symbolise la sagesse, la liberté. C'est aussi l'aigle qui déploie ses ailes pour protéger son nid. Donc, on peut établir effectivement ce parallèle. Et c'est très codifié, effectivement, porter des plumes. C'est synonyme de pouvoir. Plus on en a, plus on est un grand chef. Effectivement, on se rend compte que les grands chefs ne portaient ces parures de plumes que lors des grandes cérémonies rituelles, lors
jours,
des coups parlés.
Alors, on a quand même un débat. Bon, alors, vous avez dit, il avait la plume sur la tête, il n'a jamais utilisé la plume pour signer des traités. En revanche, il s'est fait enlever 50 morceaux de chair. Et ça, j'avoue que dans le récit, nous, on était un peu surpris avec
Mathieu.
Surtout
qu'après, tu ne peux pas aller combattre si tu t'es enlevé de la chair.
Non, mais bien sûr, il n'a pas pu. C'était peu commun, quand même. Je veux dire, là, c'est
alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? C'est quoi cette histoire?
Il a sacrifié à ce rituel lors de la danse du soleil, qui se tient normalement une fois par an, au début du mois de juin. Et Sitting Bull a mené donc des prières et il a jeûné pendant trois jours, tout ça pour obtenir une vision. C'est-à-dire que Sitting Bull était aussi un medicine man, alors c'est un guérisseur, mais au sens chaman du terme, évidemment, ce qui faisait aussi de lui un sage, c'est-à-dire qu'il était aussi capable d'interpréter les signes du divin et même de communiquer avec le grand esprit que les Sioux appellent Wakantanka. Et c'est là qu'il a eu donc cette ambition donc de donner ce qu'il appelait, j'aime bien cette expression, la couverture écarlate, donc de son propre sang sur un objet rituel.
Mais donc il fallait s'arracher des morceaux de
50 morceaux, petits morceaux,
tout petit,
quand même, sur chaque
mais
bras.
Mais c'est juste la peau ou on enlevait un morceau de chair aussi?
Ça devait saigner quand même.
Moi, il y a un truc que je ne comprends pas qui est un peu paradoxal. Je trouve que le personnage dont Stéphane a brossé le portrait, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui ne signe pas de traité de paix, pourquoi il a participé au Wild West Show, qui était quand même un spectacle itinérant où on fait revivre le mythe de la conquête de l'Ouest, et c'était un peu des spectacles, c'était un peu des zoos humains presque. Comment il a accepté? Comment
alors,
il a cautionné
c'est
ça?
C'est vrai que c'est très surprenant. Il y a même une photo assez célèbre prise à Montréal où on le voit côte à côte avec Buffalo Bill, qui en a tué aussi des Indiens. Il n'a pas tué que des bisons dans sa tumultueuse carrière. On ne peut pas dire non plus qu'ils étaient amis. Il y avait une relation basée sur le respect avant tout. Et effectivement, Buffalo Bill, qui était aussi un businessman, a eu l'idée de fonder un Wild West Show. Alors c'est quoi? C'est une reconstitution grandeur nature de la conquête de l'Ouest, qui s'est exportée jusqu'ici en France, au début du XXe siècle. Et Sitting Bull a accepté la proposition que lui a faite Buffalo Bill, donc d'échapper à la misère de la vie dans la réserve de Standing Rock, où il était très mal, puisque effectivement, au début des années 1880, Sitting Bull était tombé dans la dépression et la mélancolie, et il voulait connaître un petit peu le monde de l'homme blanc. Et on raconte d'ailleurs que lorsqu'il n'était pas de représentation, on raconte que Sitting Bull distribuait généreusement tout son argent aux petits vagabonds, aux enfants notamment, qui venaient le voir, qui venaient le héler. Et lui-même, Sitting Bull, ne comprenait pas cette pauvreté dans un environnement qui était quand même
plus prospère, bien sûr. Très forte. Alors, Farid Hammer, vous avez rencontré, je crois, l'arrière-petit-fils de Sitting Bull. Il a de longs cheveux, il a plus de 70 ans, il s'appelle Ernie Lapointe.
Et il ressemble à s'y méprendre à son illustrailleur.
Peut-être qu'il joue de la ressemblance aussi.
Voilà, il est cousin avec Bobby ou pas du tout?
Après, je sais pas. Il s'appelle Ernie Lapointe. Je l'ai rencontré il y a deux ans. C'était très sympathique à Paris. Et donc, et ce qui est drôle, c'est qu'il vit aujourd'hui à Deadwood. C'est dans les Black Hills. Donc, il y a une certaine continuité.
Mais il vit comme un. Pardon,
il est retraité.
Il vit comme un Sioux, mais... ou est-ce qu'il vit dans un appartement?
Est-ce qu'il y a un Tipeee ou est-ce qu'il y a un Digicode?
Je n'ai jamais été invité chez lui, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, il suit le rite Lakota traditionnel. Ah oui. Ça, il a été très clair avec moi.
En tout cas, c'est passionnant. Et
on a bien fait de soutenir Sitting Bull. Hein. Ouais. On avait
Miser bon, on n'est pas bon. Du côté des vainqueurs.
Non,
ça, faut être honnête.
Non, mais ça, on l'est rarement, Stéphane.
Merci, Farid Hammer. Je rappelle votre livre Sitting Bull, héros de la résistance indienne, ainsi que héros et légendes du Far West, tous deux dans la collection Texto chez Talendier. Et je vous invite, si vous aimez les Indiens...
J'adore les Indiens, Stéphane.
Vous savez, Buffalo Bill est allé rendre visite à une peintre française qui s'appelait Rosa Bonheur. Et Rosa Bonheur habite... Enfin, elle n'habite plus puisqu'elle est morte, mais elle a toujours le château de Thomery avec son atelier de Rosa Bonheur. Et il y a tous les costumes de Buffalo Bill dans l'armoire. Donc je vous invite à aller visiter le château de Thomery. C'est passionnant, surtout quand on aime les Indiens.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. La preuve avec Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, mais qui aujourd'hui, malheureusement, eh bien, elle soutient les Américains contre
oui,
les Indiens.
Oui, c'est ce qu'elle nous disait au moment d'entrer dans ce studio. Hein.
Et
c'est,
ça,
exactement.
Ah, oui. Non, mais écoutez,
exactement.
Mais écoutez, les
alors
garçons,
on leur a volé leur
pas
terre.
Du tout, mais
on
je...
les a exterminés.
Mais écoutez, je ne fais que vous rappeler une réalité bien cruelle. Oui, mais en vous disant qu'à l'époque, vous eussiez été du côté des méchants.
Non.
Mais
non,
bien sûr
non.
Que
non,
si.
Non, avec
mais
Stéphane,
bien
on est toujours du côté des gentils.
C'est ça. C'est parce que vous avez gardé votre âme de garçon en culotte courte et voudriez être du côté des gentils. Mais non, vous auriez été des côtés des méchants et moi aussi. Bon, alors écoutez, pour bien des gens, Cyrano de Bergerac, c'est seulement le héros imaginaire d'Edmond Rostand. Mais pas
mais
du
non.
tout. Hein, il a bien existé. Et la première erreur qu'on fait souvent, c'est de se dire qu'il est gascon. Hein, bien sûr, Cyrano de Bergerac, ça fleure bon l'Armagnac, tout ça. Hein, Bergerac, Aurillac, Mauriac, Castelbajac. Bon, ben voilà, c'est la Gascogne.
Montbazillac.
Eh ben oui, Montbazillac, exactement. Eh ben, pas du tout.
Dès qu'il y a un alcool à citer, là, Stéphane, tout de suite, t'as la bonne réponse. Ouais, dans le quiz, plus de questions
si
sur l'alcool.
Je ne sais pas si Bull buvait beaucoup de Montbazillac. Stéphane, bon. Alors, par contre, les cow-boys devaient boire de l'Armagnac. Bon, alors, en tout cas... Le nom de Bergerac, ça vient de la vallée de Chevreuse, près de Paris, figurez-vous. Eh oui,
hein.
Eh oui, je vous vois stupéfait. Cyrano, il est né à Paris le 6 mars 1619. Hein, c'est un vrai Parigot. Son père, Abel de Cyrano, sieur de Mauvières, avocat au Parlement. Et sa mère, comme c'est romanesque, dès le berceau, écoutez-moi ça, sa mère, la mère de Cyrano, demoiselle Espérance de Bélanger, si c'est pas joli, hein. On le confie, le petit garçon, à un curé de campagne qui passe plus de temps à le corriger qu'à l'instruire. Ensuite, hop, au collège de Beauvais, dans le quartier latin. Un collège dirigé par un pédant autoritaire que Cyrano épinglera dans sa pièce « Le pédant joué ». D'où vient la fameuse réplique qui lui sera empruntée par Molière ? Qu'allait-il faire dans cette galère ? Eh oui, ça c'est du Cyrano. Alors, ses études terminées, Savinien bamboche, fait les 400 coups, fréquente les tripots, boit, se bat. Et son père décide de le faire embastiller. Et c'est alors que Lebray, le meilleur ami de Cyrano, va voir le papa en disant « Écoutez, non, vous ne pouvez pas faire enfermer votre fils ». Laissez-nous nous engager tous les deux dans la compagnie des gardes nobles. On est en 1638, donc Savinien a 19 ans à l'époque. Et cette compagnie, commandée par le capitaine Carbon de Casteljaloux, est constituée presque exclusivement de Gascons. Donc là, on retrouve bien Edmond Rostand et la pièce de théâtre avec ses cadets de Gascogne, sauf que les cadets de Gascogne, ça n'a jamais existé en tant que tel. Et c'est dans cette compagnie que Cyrano va recevoir bientôt le surnom de démon de la bravoure, parce qu'il adore en découdre, il aime se battre. Alors, dès 1639, il a une balle qui lui traverse le corps de part en part au siège de Mouzon. Et l'année suivante, au fameux siège d'Arras, qu'Edmond Rostand donne pour cadre à son quatrième acte, eh bien, alors qu'il est à peine remis de sa blessure, Cyrano, il reçoit un coup d'épée à la gorge. Et là, pof, fin de sa carrière militaire. Alors, oubliez, s'il vous plaît, l'image d'un Cyrano de Pardieu, quadragénaire et mousquetaire, c'est non. Le vrai Cyrano, à 21 ans, l'armée, c'est terminé. Il part suivre des cours de philo chez Gassendi. Chez Gassendi, il a un copain qui use ses fonds de culotte là-bas, au même endroit, c'est Molière. C'est là qu'il se rencontre. Il va suivre aussi des cours de rhétorique et devenir écrivain. Et il sera même l'auteur d'un des premiers romans de science-fiction. Mmh. Au physique, comment est-il ? Évidemment, quand Cyrano, on pense à Weber, on pense à Depardieu, mais non, d'après le grand copain de Cyrano d'Assoucy, il était de taille moyenne. Sa tête paraissait presque veuve de cheveux. On les eût comptés à 10 pas. Donc, il est quasiment chauve, hein, votre Cyrano. C'est pas très sexy, hein, c'est pas Sitting Bull. Alors, ses yeux se perdaient sous ses sourcils, son nez large et recourbé ressemblait à celui des perroquets. Alors, autrement dit, pour le fameux nez de Cyrano, Rostand n'a rien inventé du tout. Cyrano était d'ailleurs très fier de son nez. Voilà ce qu'écrit Cyrano. Les Camus. Comprenez les gens qui n'ont pas de nez. Je vous ai raconté l'autre jour l'histoire de la Camarde. Exactement. La Camarde, c'est la mort qui n'a pas de nez. Les Camus, écrit Cyrano, sont des avortons dont rougit la nature. À la longueur du nez se mesurent la vaillance, l'esprit, la passion, la finesse. Le nez est le siège de l'âme. écrit Cyrano.
Mais pourquoi pas ?
Oui, mais oui, alors, et l'anecdote du nez est authentique. Un jour, il y a des laquais qui portaient des épées à l'époque qui se foutent de son nez sur le pont neuf. Il les chasse comme un chien de berger chasserait des moutons. Et puis, au passage, il embroche le fameux singe fagotin dont le propriétaire lui fera par la suite un procès. Tout ça est tout à fait authentique. Mmh. Autre vérité de la pièce, la rôtisserie des poètes et Ragnaud. Tout ça, ça existait aussi. Que Cyrano se battent en duel des dizaines de fois. Oui, c'est vrai. Toujours pour les autres, jamais pour lui, parce qu'il a un très bon caractère, une très bonne nature. Donc, quand on est témoin dans un duel au 17e, on doit se battre avec celui qui a déclaré, enfin, qui a provoqué un autre en duel. Donc, là, oui, il se bat constamment, Cyrano, une centaine de fois. En revanche, écoutez-moi bien, chers messieurs, jamais Cyrano n'a été amoureux d'une quelconque Roxane, comme dans la pièce de Rostand, mais plus sûrement d'un de ses amis, Chapelle ou d'Assoucy. Et oui, l'historienne qui a fait l'outing de Cyrano appelle d'ailleurs ses trois amis le gay trio. Donc, alors, sur ces conditions de sa mort aussi, on ne sait pas exactement comment il est mort. Dans la pièce, il reçoit une bûche sur la tête.
C'est sûr que Depardieu, il aurait moins joué.
Ça c'est sûr. Hein. Alors, en tout cas, conclusion, messieurs parisiens, et non Gaston.
Il y a le téléphone qu'ils ont.
Pas bien grand, à peu près chauve, amoureux non d'une Roxane, mais plus sûrement d'un homme, mort non pas à coup de poutre, mais sans doute de maladie. Tel fut le vrai Cyrano. Une chose reste cependant commune à l'homme de chair et d'os comme au héros de théâtre qui l'inspira à Rostand, une gerbe de plume que l'on nomme panache.
Ah, wow. Et voilà le rapport avec la plume. Et vous avez cité Cyrano, précurseur de la littérature de science-fiction. Je vous invite à découvrir Histoire comique des États et Empires de la Lune. C'est le roman de science-fiction qu'il a écrit bien avant Jules Verne, qui relate un voyage sur la Lune et qui est vraiment encore aujourd'hui délicieux à découvrir. Je vous y invite, c'était mon petit conseil littéraire.
Merci Clémentine, pour cette invitation.
Vous restez avec nous, le moment que nous attendons tous, sauf Stéphane, est proche.
J'attends.
Dans une poignée de secondes, le quiz arrive en perspective. Cyrano aurait dit une défaite, une déroute, une débâcle. Que dis-je, une débâcle? Une branlée. La défaite de Stéphane sera-t-elle moins amère en alexandrin? Rendez-vous dans un instant pour Born to be Alive.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Elle domine cette séquence de la tête et des épaules. Elle est la reine du quiz. Seulement voilà. Clémentine Portier-Kaltenbach joue avec le feu en manquant de plus en plus souvent de respect à Stéphane, qui pourrait bien finir par être piqué au vif et avoir un sursaut d'orgueil. L'autre jour, elle a carrément avoué l'inavouable quand on bosse avec Stéphane.
Vous n'avez pas regardé Secret d'Histoire hier soir ?
Eh ben non, j'ai pas regardé.
La vengeance qui, comme le gazpacho, se mange froid sera terrible. Clémentine, jouons à Burn to be Alive. Stéphane, la première question est pour vous et à mon avis, vu l'intitulé de cette question, vous devriez trouver facilement la réponse. La duchesse Elisabeth Amélie Eugénie de Wittelsbach est née à Munich en 1837. C'est évidemment
Elisabeth d'Autriche.
Si,
oui.
On a tous en mémoire les jolis traits de Romy Schneider. La vraie Sissi faisait 1m72, 50 kg, 50 cm de tour de taille, 65 cm de tour de hanche et 95 b de poitrine. Vrai ou faux ?
C'est vrai.
Vous avez perdu.
Oui, 95, c'est énorme, Stéphane. Ah non, vous n'y connaissez 50. Rien, un bonnet de soutien-gorge, ma parole.
Il est tombé dans le thème.
Ah non, 95B, vous rendez compte? Elle aurait penché en avant, on dirait.
C'était Lolo Ferrari, vous avez confondu avec Lolo Ferrari. Si. Ah, c'est fignant.
Pas aussi. Du tout, elle avait les dents pourries.
Je me suis concentré sur les 50 centimètres. Parce que c'est un truc qu'on n'imagine pas.
C'est quand vous allez, par exemple, à Vienne, la finesse de sa taille, que l'on voit quand on visite la Hofburg de Vienne. Alors après, j'ai pas écouté les autres.
Elle était très jalouse d'une chanteuse française qui s'appelait Poller, qui avait la taille encore plus fine qu'elle. Mmh. Elle était dans la compète constamment.
Et elle se faisait tous les jours, on lui mettait des corsets et elle faisait tirer dessus.
Mais quelle horreur.
Elle mangeait rien, elle se faisait. Ouais. Elle avait les dents pourries d'ailleurs parce qu'elle se faisait vomir.
Parce qu'elle se faisait vomir, oui. Ouais.
Donc je pense que j'ai la bonne réponse.
Non, c'est pas la bonne réponse. Vous ne connaissez rien en bonnet soutien-gorge. Je crois que ça, la France entière est
effectivement, toutes les mentions.
J'avoue que j'ai pas écouté la fin.
Toutes les mensurations étaient bonnes.
C'est pas pour ça, j'ai pas écouté la fin, sauf le 95.
Je peux vous le dire, moi j'ai été vendeuse quand j'étais à Sciences Po. Tous les lundis, j'étais au rayon lingerie du Bon Marché. Hein. J'en ai vu des fois défiler des nichons.
L'un était dame pipi à Versailles, l'autre vendait des soutifs au Bon Marché. Bah ouais. Quelle équipe d'historiens.
C'était l'époque où Sciences Po...
Question numéro 2 pour vous, Clémentine, la vendeuse de 95B. Ouais. Si je vous dis que je vous propose maintenant une autre question sur Sissi, vous allez à Vienne visiter le musée consacré à Elisabeth d'Autriche, vous y trouverez sa seringue à cocaïne. Vrai ou faux ?
Alors là, est-ce que
Sissi... Vous qui êtes spécialiste de reliques.
Est-ce que Sissi a pu... Non, elle prenait pas de la cocaïne, non. Non, écoutez, sinon vous me la prendriez, je dis non.
Vous avez perdu.
La seringue était rangée dans une petite trousse de voyage. Elle s'en servait au 19e siècle comme anesthésiant local, mais aussi comme antidépresseur, car on ne le dit jamais assez. La cocaïne est un excellent antidépresseur.
Ah bon, c'est vrai?
Vous saviez
ça qu'elle prenait?
Je savais qu'elle avait une... J'ai vu la seringue.
Elle a une seringue, mais enfin, elle n'était pas addicte à la cocaïne.
Vous pensez pourquoi?
Vous savez, parfois, on se des injections de cellules de pour se rajeunir.
Oui, c'est qu'on connaissait pas. On a bien préconisé l'uranium, le radium pour comme soin de beauté.
Il y en avait dans les crèmes
moi,
de beauté.
Moi, je pense que c'est ça. C'est voilà, vous m'avez induite en erreur en me donnant à penser qu'elle était.
Mais moi aussi. Il m'a donné des chiffres bien.
Il vous donne du 95B.
Ça s'appelle un piège, Stéphane. Question numéro 3, Stéphane.
En tout cas, la balle au centre, hein. Zéro partout.
Comment s'appelait l'anesthésiste officiel de la reine Victoria qui l'a endormie quand elle a eu son 8e enfant, le prince Léopold ? William Shakespeare, Jon Snow ou Joe Cocker ?
Oh là là, pourtant j'ai relu...
Je rappelle que Stéphane a fait un récit sur la reine Victoria.
Si vous me donnez un demi-point,
très récemment. Stéphane, faites appel à vos souvenirs. On a parlé de la reine Victoria l'autre jour.
Oui. Elle avait un anesthésiste parce que c'est elle, le chloroforme.
Le bon docteur, elle l'adorait.
Attendez,
elle a écrit
anecdote
chez lui.
Historique, le chloroforme.
Oui, c'est la première qui a utilisé le chloroforme.
Elle a expérimenté.
J'ai
fait une chronique
intégralement
là-dessus dans cette émission, mon cher Mathieu. Je pense que vous manquez un peu de cocaïne, si vous voulez mon avis.
Redites-moi les noms. C'est pas Shakespeare, je l'aurais retenu.
William Shakespeare, Jon Snow ou Joe Cocker.
Snow, je dirais.
Vous avez
gagné. Sortez Game of Thrones.
Tambours et trompettes, une bonne réponse de Stéphane Bern. Jon Snow, il y a le Jon Snow de Game of Thrones. Vous le connaissez, vous avez vu Game of Thrones ou pas? Ah non, vous n'avez pas suivi.
Non, mais j'ai pas la télé pour vous dire la vérité.
Et alors, si vous n'avez pas la télé, Stéphane, comment vous avez vu la série sur la reine d'Angleterre?
Je vous explique.
Vous allez chez des amis, comment ça se passe?
Non, j'ai un ordinateur.
Et vous avez les codes d'un ami qui... D'accord, bravo. Le vrai Jon Snow a vécu au 19e siècle. C'était un grand épidémiologiste. Il aurait été un grand secours aujourd'hui. Également spécialiste de l'anesthésie. Après de nombreux travaux sur les terres, il est devenu officiellement, auprès de la reine Victoria, son anesthésiste attitré. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Alors attention, là vous n'avez pas le choix, il faut répondre juste. Helen Duncan était une médium écossaise du début du 20e siècle. Elle est la dernière personne à avoir été condamnée par une loi datant de 1735 contre la sorcellerie. Elle reste connue pour avoir dit être entrée en relation avec un marin mort d'un cuirassé de la Royal Navy. Or, l'info selon laquelle le bateau avait coulé était classée secret défense. Vrai ou faux ?
C'était à quelle époque ?
19e.
C'est au 19e. Elle aurait donc prédit l'échouage d'un bateau qui
s'était... Elle n'a pas prédit. Elle serait entrée en relation avec un marin qui était mort sur un cuirassé de la Royal Navy. Mais cette information, si vous voulez, elle était classée secret défense.
Oui, bien sûr, c'est vrai.
Vous avez...
Bonne réponse, sauf effectivement que les familles, il y a une explication logique, les familles des 861 morts du bateau HMS Barham avaient reçu une lettre de condoléances. On a estimé que à peu près 9000 personnes étaient donc au courant, donc on était peut-être face à un cas de charlatanisme et non de communication directe avec les esprits. Question numéro 5, c'est celle qui va vous départager. Il y a une explication historique à cette question. 60% des Japonais ne vivant pas au Japon sont dans un même pays. Lequel ? Trois propositions. Les États-Unis, la France ou le Brésil ?
Les États-Unis.
Oh mince.
Qui a été le plus rapide ? C'est important de savoir qui a été le plus rapide.
Clémentine.
Car la personne qui a été le plus rapide à cette question a perdu le quiz. Puisque effectivement, la réponse n'était ni les États-Unis, la France, mais le Brésil.
Ah, c'est marrant ça.
Et oui, en 1868, les Japonais sont autorisés à quitter leur pays. Les agriculteurs sont handicapés par la forte industrialisation du Japon. Dans les années qui suivent, c'est aux États-Unis qu'ils migrent principalement. Puis en 1924, une loi interdit l'immigration asiatique. Ils se tournent alors vers le Brésil, qui, avec la fin de l'esclavage, avait besoin, un besoin urgent de main-d'œuvre. Aujourd'hui, la troisième génération de Brésiliens d'origine japonaise est appelée les Nikkei.
Et là, là vous aurez
pour une fois appris quelque chose. Qui s'est fait Nikkei exactement, Stéphane? Vous voulez développer peut-être votre pensée, ça peut être intéressant effectivement pour finir sur une note un peu chic. Oui, quelqu'un s'est fait Nikkei, je ne sais pas, peut-être votre réputation. Bravo en tout cas Stéphane, bravo, vous avez remporté le quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, la seule émission d'histoire où en une seule et même fournée, on peut vous proposer Sitting Bull, Miss Tinguette et Régine.
Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux.
Ouvrez la bouche, fermez les yeux, sauf si vous êtes au volant évidemment, vous verrez, ça glissera beaucoup mieux en écoutant Stéphane Bern. Alors Stéphane, pourquoi on réunit Sitting Bull, Miss Tinguette et Régine au fait?
Parce que cet après-midi, c'est une spéciale plume.
Mais quand plume, plume de...
Deux animaux.
Après Sitting Bull, et pendant que cette chère Zizi Jeanmaire continue de chanter, je vais donc vous raconter le destin de la gloire du musical des années folles, Miss Tinguette, et vous Mathieu, d'une icône de la nuit parisienne, l'inoxydable Régine. Et son boa.
Et son boa, oui. Inoxydable, sauf capillairement. Hein. Mais oui, je vous brosserai le portrait de l'extrêmement attachante Régine.
Sans oublier nos chroniqueurs.
Eux aussi sont attachants.
Ah oui, très attachants. Et ils ont des plumes. Enfin, David Cassel-Lopez nous raconte les origines du stylo-plume.
Tout à fait.
Moi, ouais. J'ai connu la plume sergent-major.
Oui. C'est quoi la plume sergent-major?
C'est le monde d'avant. Oui, le monde où Stéphane Bern était petit. C'est là, vous avez un encrier.
On avait un encrier.
Ah, oui, votre ça, plume.
On trempait notre plume à l'école.
Oui, oui.
Quand vous étiez tout petit, c'était la plume doigt, non?
Non, mais je suis vieux. Mais
avec
je
stylets,
suis vieux, mais pas à ce point quand même.
Ben moi, je me souviens que ma grand-mère me parlait de cette époque. Mais ça me paraît quand même un peu lointain.
Non, mais ça me désespère.
Olivier Poul, c'est avec nous, Stéphane. Et lui aussi, il a tenu à coller au sujet de la plume.
Oui, avec un poulet. On va le plumer, on va le préparer. Pareil, on va le manger et surtout on va le faire d'une manière que j'adore, on va voyager un peu, façon tikka masala. D'où est-ce que ça peut bien venir?
Bah ça vient d'Inde, hein, ça c'est pas un scoop.
Eh ben c'est pas sûr.
Comment ça c'est pas sûr?
Il y a du gros scoop les amis, c'est pas sûr.
Vous êtes sûr que l'ambassade d'Inde va pas nous passer un coup de fil?
Bah peut-être qu'elle pourrait nous envoyer là quelques petits plats de poulet tikka masala.
En dernière minute. Il y a les amis anguille sous roche. Oui. D'où vient cette expression que personnellement j'adore?
C'est vrai.
Vous nous le révélerez en fin d'émission Stéphane?
Oui, bien sûr.
Oui. Et tout de suite, où allons-nous? Eh bien, nous partons à la rencontre de Jeanne Florentine Bourgeois. Ça vous dit rien, Jeanne Florentine Bourgeois?
Non.
Pas du tout, si je vous dis Miss Tinguette.
Ah oui.
Eh ben voilà.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Miss Tinguette pouvait porter jusqu'à 30 kilos d'aigrettes sur la tête. Mon métier, disait-elle, c'est le musical. Les aigrettes, les plumes, les filles en régiment à la verticale et les garçons maquillés, bien habillés, qui sourient vers le premier rang d'orchestre. Mon métier, c'est ça. Rythme et mouvement, agitation sur la scène au tempo des grands orchestres, écrit-elle dans son autobiographie. Héritier du CAFCON, le café-concert, le musical, est un spectacle haut en couleur qui mélange les genres chant, danse, cirque. Il débute sa prestigieuse carrière à la Belle Époque et met sur le devant de la scène des vedettes, dont notre Miss Tinguette. Elle naît Jeanne Bourgeois, vous l'avez dit Mathieu, à Enghien-les-Bains en 1875. Loin des plumes et des paillettes, son père est ouvrier et sa mère couturière. Mais ça ne l'empêche pas de jouer très tôt les stars. La petite Jeanne se déguise en permanence et récite des fables en grimaçant devant la glace. Quelle joie de retrouver chaque semaine les saltimbanques du cirque qui s'installent sur la place du marché d'Enghien. Pas timide pour un sou, elle les approche et se retrouve vite à faire la vaisselle de la patronne, ce qui lui permet de monter dans les roulottes des forains et de se mettre du carmin sur les joues. Du haut de ses 8 ans, elle annonce à ses parents « Je suis née pour être artiste, je veux faire du théâtre ». Ça ne leur plaît guère. La voilà qui attaque alors une grève de la faim. La future Mistinguette est comme ça. Jamais elle ne se résignera. Son entêtement finit par payer. Jeanne prend des leçons de solfège et de violon chez le père Boussageul à Paris. La main sur la hanche, elle pousse parfois la chansonnette avec un drôle d'accent du terroir. Accent qu'elle gardera toute sa vie et qui fera d'elle la voix des rues de Paris. Surnommée la princesse de la pointe raquée du nom de la station où elle prend son train pour la capitale, la future vedette peaufine son personnage. Elle n'a pas de talent particulier, mais son parcours prouve que la clé du succès, c'est le travail. Son premier public est à quatre pattes, ce sont les chiens errants de la capitale. Il faut dire que les cours de Boussageul sont barbants. Alors, Jeanne sèche et préfère vadrouiller dans Paris où elle se forge son tempérament de théâtre. Dans le train, à l'âge de 17 ans, elle fait la connaissance de Saint-Marcel, auteur de couplets de revue dans les cafés de Paris. Il la surnomme Miss Elliot pour sa ressemblance avec ce personnage d'opérette. Un jour, une fois les salutations échangées, Saint-Marcel gagne son siège et se met à fredonner, inspiré par l'air d'une de ses revues, la Vertinguette. C'est la Vertin, Miss Elliot, c'est la Vertin, c'est la Mistinguette. Il se tourne vers elle et lui dit « Si jamais tu fais du théâtre, petite, tu t'appelleras Mistinguette ». Avec l'appui de Saint-Marcel, Mistinguette, la bien nommée, fait ses débuts au Casino de Paris en 1894 en chantant « Je suis la môme du casino » avant de se produire dans différentes salles parisiennes. 10 ans à l'Eldorado lui apprennent à tenir une scène. Comédie et pas de danse viennent supplanter son insuffisance vocale. La vedette sait que sa voix n'est pas son premier atout.
Lorsque ça monte trop, moi je m'arrête. Et d'ailleurs on n'est pas ici à l'opéra. On dit que j'ai le nez en trompette. Mais je serais pas Mistinguette si j'étais pas comme ça.
Et elle est comme ça, Mistinguette. Sa valse chaloupée avec Max Derly connaît un succès incroyable et un grand parcours est en fait de grandes rencontres. Mistinguette se lie plus tard d'amitié avec Jacques Charles, le père de la revue moderne. Ensemble, ils écrivent la légende du musical sur les planches du Moulin Rouge. Plumes, strass et paillettes, la vedette fait tourner toutes les têtes. Mistinguette devient la femme aux divines gambettes et la figure incontournable des nuits parisiennes de la Belle Époque. Comme toutes les stars, Mistinguette n'a pas de vie privée. Ses amours font couler beaucoup d'encre. Il faut dire que c'est une vraie croqueuse d'hommes, jusqu'à ce qu'elle trouve son homme.
Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme.
En 1911, Mistinguette prépare aux Folies Bergères un numéro de valse renversant avec un certain Maurice Chevalier de 13 ans son cadet. Il faut jouer un couple qui se dispute, envoie tout promener et termine en s'enroulant dans un tapis. Au cours d'une répétition, le tapis met longtemps à se dérouler, mais trop longtemps. Mistinguette et Maurice Chevalier viennent d'échanger leur premier baiser. La relation intense et passionnée dure 10 ans. Quand son amant est fait prisonnier par les Allemands pendant la Grande Guerre, la Miss se convertit en espionne. Grâce à ses relations avec le roi d'Espagne, Alphonse XIII, elle parvient à le faire libérer. Si même une guerre n'a pas pu les séparer, on s'imagine que rien ne le pourrait. C'est faux. Maurice Chevalier demande à Mistinguette que son nom soit aussi gros que le sien sur les affiches. Quelle toupet ! L'idylle s'achève illico. Mistinguette peut tout accepter, sauf qu'on lui fasse ombrage. Les années folles sont pour la vedette les plus belles de sa carrière. Au Moulin Rouge, Mistinguette descend le grand escalier de la salle dans un habit de lumière cousu d'une traîne. Avec sa gouaille inimitable, elle laisse durer le suspense avant de se dévoiler, de dévoiler ses jambes à l'arrivée. Jambes qu'elle fait assurer pour plus de 500 000 francs de l'époque. Le tout Paris l'acclame. alors, consciente de son succès, mais aussi de la concurrence. Sa rivale principale porte une ceinture de banane, c'est Joséphine Baker qui arrive. Elle est très exigeante envers elle-même, mais pas que. Elle exige la perfection de tous ceux qui l'entourent. Aucun détail n'est laissé au hasard. La Miss inspecte les costumes, les chaussures de chaque danseuse. En coulisses, on la surnomme le général Mistinguette ou Missolini. Malgré la douceur, malgré la douceur de ses plumes, il fallait prendre Mistinguette dans le sens du poil.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il fallait prendre Mistinguette dans le sens du poil. Voilà une phrase de Stéphane Bern qui restera. Pour continuer à parler de Mistinguette, nous sommes avec le journaliste historien de la chanson, Martin Penet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste historien de la chanson et notamment auteur de la Miss Mistinguette ou la légende du musical aux éditions Omnibus. Comme un chef indien, une légende du musical se doit d'avoir des plumes. La plume, c'est, au fond, c'est plus qu'un accessoire, c'est un vêtement.
Oui, c'est un attribut, je dirais même, des personnages du musical. C'est l'idée de la déesse empanachée. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'à cette époque-là, toutes les femmes portaient des plumes, des fourrures. Ça faisait partie de la mode, notamment sur les chapeaux. Le chapeau, jusqu'aux années 50, toutes les femmes portaient des chapeaux dès qu'elles sortaient. Donc, et les hommes aussi, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, on a un peu oublié ça. Mais
c'est un symbole de quoi ? De chic ou au contraire d'exotisme ?
Au musical, ça prend une dimension complètement exacerbée. Si vous voulez, on n'est plus dans le chapeau qu'on met dans la rue pour être belle. Là, c'est carrément quelque chose qui
c'est
doit...
Exubérant,
qui doit épater le public. À une époque, si on parle par exemple des années folles, qui est quand même l'apogée du musical, le grand spectacle à Paris, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme divertissement possible ? Il y avait le cinéma qui déjà marchait, sauf que c'était du cinéma muet, et c'était, bon, même s'il y avait un orchestre, mais souvent, mais enfin pas dans toutes les salles, mais c'est surtout un cinéma en noir et blanc. Donc, quand on allait au
musical, voir la couleur.
On voyait de la couleur, de la musique, de l'entrain, toutes sortes de choses absolument incroyables, et tous les tableaux représentaient des choses soit exotiques, soit historiques, soit au contraire très moderne, il fallait en prendre plein la vue, si vous voulez.
Non, mais c'est vrai que Mistinguette, on l'a dit, ce sont c'est les plumes, mais c'est aussi les gambettes connues de tout Paris, comme elle le disait. Elle avait tout misé sur ses jambes, plus que sur sa voix, visiblement.
Oui, et j'ai envie de dire aussi, plus, parce que si on parle du physique, plus que sur sa poitrine, par exemple. Parce que ça, on n'y pense pas, parce qu'elle n'avait pas une poitrine particulièrement avantageuse.
Mais c'était peut-être aussi un peu trop indécent à l'époque, la poitrine, non ?
Non, les femmes nues au musical.
C'était pas à 95B.
Si, ça se faisait. Alors, il y avait aussi les maillots couleur chair à la belle époque. Il fallait donc à la fois montrer tout en ne montrant pas. Enfin, bon, ça, c'est la subtilité aussi pour éviter la censure. Mais déjà, dans les années 20, on commençait à voir des vraies femmes nues, mais plutôt dans les figurantes. Mais cela dit, Joséphine Baker, quand elle est arrivée aux Folies Bergères en 1926, elle montrait ses seins.
Oui, hein.
Donc Mistinguette, ce n'était pas son attribut principal. Et elle a eu ce coup de génie, au contraire, de montrer ses jambes. Et c'est vrai qu'elle les entretenait, elle faisait beaucoup de gymnastique, beaucoup de danse, et elle faisait tout ce qu'il fallait pour. Elle était très, très acharnée au travail.
Ce qui est assez étonnant, c'est que le destin de Mistinguette ressemble aussi à celui de Joséphine Baker, dans le sens où elles ont été danseuses, mais aussi espionnes. Et elles ont elles ont joué un rôle politique. Joséphine Baker était une grande résistante, on peut le dire. Il suffit d'aller au château des Milandes pour s'en rendre compte. Et Mistinguette a tout fait pour libérer son amant.
Oui. C'est amusant ce que vous dites, parce qu'en fait, ça concerne deux guerres différentes.
Oui, absolument. La première
et
la seconde. Joséphine Baker, c'est la deuxième guerre mondiale. Et Mistinguette, la première guerre, la grande guerre.
Pourquoi ? Parce qu'elles avaient 30 ans de différence. C'est ça l'explication. Mais donc, pendant la grande guerre, Mistinguette a mis effectivement son talent en partie au service de la France, aussi au service de sa propre gloire, parce que c'est là qu'elle a commencé à devenir vraiment très, très, très célèbre durant cette époque-là. Mais parallèlement à ça, elle est allée donc chanter pour les blessés dans les hôpitaux. Bon, ça se faisait pas mal, mais elle l'a fait vraiment beaucoup. Effectivement, elle avait des relations bien placées qu'elle a fait jouer pour essayer de faire libérer Maurice Chevalier, qui était prisonnier de guerre en Allemagne après avoir été blessé dès l'été 1914. Et par ailleurs, elle a accepté de remplir des missions d'espionnage en Suisse, notamment, qui était donc pays neutre, où c'était une sorte de plaque tournante de toute la diplomatie de la guerre à cette époque-là. Et donc, elle est allée dans des hôtels, écouter des conversations, essayer de choper des renseignements, et elle les a apportés. Et ça a joué un certain rôle.
Ouais, c'est fou.
On a des témoignages quand même de militaires, notamment, à ce sujet. Donc, c'est pas du roman. On a quand même des preuves.
Sur son son tempérament. Stéphane, vous évoquez ce surnom, ce joli surnom de Missolini.
Oui, oui.
Elle ne se laissait pas marcher sur les plumes. Hein,
pas du tout.
Mistinguette, c'était un caractère.
Ben, je pense que c'était indispensable. Déjà, pour arriver, il fallait quand même faire son trou. Et puis, une fois qu'elle avait fait son trou, pour que le spectacle soit de qualité, il fallait que tout soit nickel.
Au
il fallait vraiment que tout fonctionne au quart de seconde et que toutes les tenues soient impeccables.
Mais elle était devenue metteur en scène finalement
Elle n'était pas metteuse en scène, mais elle était la vedette de la revue. Et donc, elle surveillait tout. Et quand même aussi, lorsqu'elle a été vedette au Moulin Rouge dans les années 20, de 1920 à 29, elle était non seulement la vedette du spectacle, mais elle était en plus directrice artistique et responsable de l'atelier de costumes. On en revient aux plumes. Donc, on peut dire qu'elle avait pratiquement un empire. Elle régnait sur la Place Blanche. Quoi. C'était le Moulin Rouge, à cette époque-là, était vraiment...
Deux pas de chez vous, Stéphane. C'est hein. Toute une époque.
Ah oui, vraiment.
Aujourd'hui, c'est plus la même chose.
Rouge,
hein,
j'adore. Mais un dernier mot quand même. Comment vous expliquez que, par exemple, le nom de Max Derly ne dise plus rien à personne et qu'en revanche, le nom de Mistinguette... soit vraiment connu à la fois en France, même les plus jeunes, ils ont entendu, ils ne peuvent pas citer une chanson, mais enfin Mistinguette.
Alors, je pense que Max Derly n'est pas le seul à être oublié de parmi toutes les grandes gloires du théâtre de l'avant-guerre et de l'époque 1900.
Mais pourquoi Mistinguette ? Pourquoi est-ce que
c'est pas que
elle
la chance.
Reste c'est pas que la chance, c'est pas que les plumes, c'est pas que les jambes.
Ah bah c'est la personnalité, c'est qu'elle avait une présence absolument extraordinaire sur scène, un magnétisme, vraiment. Ça, tous les gens qui allaient au spectacle voulaient absolument la voir. Et elle avait cet atout de plaire à toutes les catégories de public. D'ailleurs, elle disait, c'est pas les gens qui achètent les places chères à l'orchestre devant la scène qui font le succès du spectacle, c'est le populaire, c'est-à-dire ceux qui achetaient les places tout en haut, pas cher. Et donc, elle tenait à ce que dans ses revues, il y ait des, par exemple des chansons qu'on retienne. Parce que, comme vous dites, c'était une femme d'affaires, quoi. Elle a su...
Elle voulait voir ses tubes.
Elle avait ses tubes, voilà, absolument.
Elle,
on connaît encore ses chansons.
On connaît encore ses chansons, absolument. Et elles ont été reprises. En tout cas, merci beaucoup. Martin Péné, je rappelle votre livre, La Miss Mistinguette ou la légende du musical aux éditions Omnibus. Et on peut également vous retrouver sur France Musique.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui aimaient les plumes. Après Sitting Bull et Mistinguette, Mathieu, il était temps d'évoquer un personnage plus proche de nous. Une femme épatante, culte, comme on dit, qui, elle aussi, adore les plumes.
J'ai voulu vous parler d'une femme exceptionnelle qu'on a surnommée, à juste titre, la reine de la nuit. Il s'agit évidemment de Régine. Régine, pour qui la date du 26 décembre 2020 est importante. Pourquoi, Stéphane ?
Elle est morte, non ?
Non, Stéphane, parce qu'elle a fêté, je pense, ses 91 printemps. Alors, évidemment... Vous le soulignez avec élégance, elle est top prioritaire pour le vaccin Moderna. Mais elle est en pleine forme, et c'est pas étonnant, elle l'avait annoncé dans une reprise inoubliable. Et elle a survécu, Dieu soit loué. Je crois que psychologiquement, je n'aurais pas supporté qu'on nous enlève et les boîtes de nuit, et Michou, et Régine la même année.
Oui,
Regina Silberberg, dite Régine, est donc née le 26 décembre 1929 à Anderlecht, en Belgique. Elle a enterré Juliette Gréco, Annie Cordy, Zizi Jeanmaire, Rika Zaraï, Suzy Delaire, la VHS, le modem, le piercing à l'arcade, la maison France 5 et même Georges Pernoud. Elle peut encore être la reine du game si elle affronte les deux boss du niveau final, Michel Drucker et Lynn Renault. Alors, je sais ce que se dit notre jeune collègue lusitanien David Castello-Lopez, qui vient de taper Régine sur Google Images. Mais bon sang, qui est cette dame aux cheveux rouges dont nous parle le Suisse? Et pourquoi, sur la jaquette de son album Régine, les plus belles chansons, agite-t-elle debout la facette comme si c'était des maracas tout en fixant l'objectif avec le regard de Monique Olivier quand elle recevait un texto de Michel Fourniret qui disait « Prépare la kangou Monique, c'est la sortie des classes ». Eh bien, David, déjà je vous demanderai de faire montre d'un peu de respect pour une personnalité mythique associée à la fête et au clubbing depuis plus de 70 ans. Une femme qui surtout, avant de faire fortune dans le monde de la night, a connu des débuts difficiles. Ses parents sont juifs polonais et quittent la Belgique alors qu'elle n'a que 4 ans. En 1932, son père vient de perdre la boulangerie familiale au poker. Pouls, père de Régine, s'il vous plaît.
Oh, je l'ai perdu, mais c'est terrible.
On s'y croirait. Avouez qu'on s'y croirait. Papa Zilberberg part en France avec les deux enfants. Sa mère préfère prendre le large et file en Argentine, où la rumeur prétend qu'elle découvrira le tantrisme avec un videur de nightclub nommé Jorge, qui deviendra plus tard pape, voire une autre chronique. Sa jeunesse, Régine la passe à se cacher des nazis avec son frère Maurice, alors qu'ils sont trimballés de pension en pension. À la Libération, son père achète un café à Paris et elle l'aide. Pouls, père de Régine.
Bon, en Libération, j'achète un café à Paris une fois et Régine va m'aider.
Elle découvre le jazz, le bebop et le swing. Au début des années 50, elle est vendeuse à Jouant-les-Pins, figurez-vous. C'est là qu'elle se plonge dans le monde des boîtes de nuit à la mode et des stars. À la fin de l'été 52, à force de danser toute la nuit, elle prend conscience d'une chose qui va changer sa vie.
L'amour peut être pluriel.
Non, c'est pas de ça aussi, mais elle aime organiser et animer des soirées. À Paris, elle devient barmaid au Whisky à Gogo, un des premiers clubs de la capitale. Elle y apportera déjà la Régine Stotch en y faisant installer des lumières ultra colorées et en remplaçant le jukebox réglementaire par une sono. Elle s'improvise DJ. Un nouveau concept voit le jour. Elle inaugure un deuxième Whisky à Gogo à Cannes, puis en 56, elle ouvre son propre club chez Régine, à Saint-Germain-des-Prés, rue du Four. Dans les pages mondaines du journal L'Aurore, Stéphane Bern, qui alors lui-même est à l'aube d'une prolifique carrière journalistique, écrira « Soirée merveilleuse ».
Et les plus grandes stars sont présentes. Dizzy Gillespie.
Oui, même Zizi Gillespie était là. Bon, Dizzy lui avait pas pu, mais ça fait toujours plaisir. Bah, c'est comme aux 40 ans de David, j'avais pas pu avoir le vrai, mais Beat Doherty, ça a fait son petit effet aussi. Bref, Régine monte en puissance.
Quand vient le mardi, la grande Zoa, mais ses bijoux, c'est chinchilla.
Alors, c'était pas le dernier chez Régine, hein.
C'est la première fois que j'ai entendu ce mot de chinchilla.
Et, ah, bon,
ah bon, vous l'avez pas entendu?
Ben non. J'ai pas l'habitude de porter des cheveux. Je sais pas si vous, mais dans les soirées.
Non, c'est rarement, rarement, ça dépend des occasions. Chez Régine, outre Zizi Gillespie, on croise Françoise Sagan, Brigitte Bardot ou encore Georges Pompidou. Très vite, Régine voit plus grand, Régine franchise. Londres, New York ou encore Monte Carlo voient s'ouvrir des clubs ultra sélects arborant le style disco qu'elle affectionne tant. Au sommet de sa gloire, Régine anime une vingtaine de clubs à travers le monde, de Miami à Kuala Lumpur en passant par Genève ou Marbella. Elle va même créer une carte de membre pour permettre à ses habitués de profiter de chaque club ou qu'il soit sur la planète. Plus de 20 000 clubbeurs, triés sur le volet, vont acquérir ce sésame à $600. Stéphane, merci de montrer vôtre à la caméra.
J'ai jamais
non,
eu de...
Non, oui, non, ça c'est votre annexe centurion. Arrêtez de frimer, Stéphane, on n'est pas là pour ça. En plus, désolé, mais d'après les chiffres que j'ai trouvés, Régine était encore plus riche que vous. Entre les clubs Régine, les vêtements Régine, les parfums Régine, les régimes Régine peut-être, certains journaux des années 70 évoquent un chiffre d'affaires annuel de $500 millions.
Ouais, super.
Oui, non, c'est perdu. Pas mal quand même. Elle a tout perdu. Oui. Mais comment elle s'est débrouillée?
C'est comme, vous voyez, par exemple, les régimes. Elle disait avec humour, avec tous les régimes que j'ai faits, j'ai au moins perdu une tonne.
Alors, bien sûr, comme le souligne perfidement Stéphane, elle ne fera pas que des bonnes affaires. Elle devra se séparer de certains clubs, mais elle se retrouve toujours à la tête des plus illustres, comme dans les années 80, où elle récupère le Palace, club légendaire de Paris, où Stéphane Bern a dansé la lambada avec Andy Warhol. J'ai des photos. Ou plutôt, et c'est ça qui faisait la magie du Palace, je n'ai pas les photos. Hein. Ce qui se passait chez Régine, restait chez Régine. Il n'y avait pas un con pour vous instagrammer alors que vous faisiez la queue leu-leu avec Mick Jagger et Gainsbourg torché au Dom Pérignon en chantant
la 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 la.
Tiens, le père de Régine, qu'est-ce qu'il fout là? Bref, pas de photos, pas de journaliste, respect total de la vie privée. C'était ça aussi Régine, et qui doit avoir néanmoins chez elle un petit carnet souvenir qui pourrait s'avérer pour certains plus compromettant que l'iPhone de Jeffrey Epstein. Parmi ses amitiés nocturnes, on citera une des plus improbables, l'amitié Régine-Simone Veil, que j'ai découvert personnellement, on discutait comme des commères et on se voyait régulièrement à Paris et à Saint-Tropez. Au final, Régine a-t-elle encore des secrets pour nous? Eh bien, on en apprendra peut-être un peu plus dans l'adaptation de sa vie délirante en série. Netflix serait intéressé, selon elle. Alors, la Casa des Régines, Stranger Régines ou Orange is the New Régine, tout est possible. Comme son but d'atteindre 100 ans, la diva aux cheveux rouges flamboyants l'affirme, 70 ans à danser sur des talons, ça conserve.
Les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon.
J'ai l'impression que vous avez connu Régine.
Non, mais j'adore les chansons de Régine, honnêtement. Azzurro, les petits papiers.
Un dernier mot de son père, peut-être, pour la saluer.
Bah, moi, ça me ferait beaucoup aller chez Régine danser un peu.
Bien sûr.
Qui a donc 160 ans.
Son père qui a 165 ans. Effectivement.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour qui avaient une passion pour les plumes.
Au revoir, personnages du jour qui avaient une passion pour les plumes. Mais est-ce à dire que David et Olivier qui nous ont rejoints n'ont pas, eux, de passion pour les plumes? Ça se voit, Stéphane, que vous ne les avez jamais suivis en reçoit. Je peux vous dire que ce ne sont pas des timides. Messieurs, avec vous, le passé éclaire le présent chaque après-midi et parfois aussi, le passé éclaire le poulet, assez étonnamment, mon cher Olivier Pouls.
Bah, en tout cas, permet de le cuisiner.
Sérieusement, Olivier Poul, c'est une recette du poulet tikka masala qui on croit qu'il vient d'Inde, mais en fait, il ne vient pas d'Inde.
Bon. Et bon. Puis, je sens que vous essayez de reprendre la main sur
votre
émission, Stéphane.
Oui, parce que là
quand
je
vous
sens
sentez
qu'on vous a
qu'on
perdu.
Glisse, voilà, oui. vous volez oui. à mon secours, c'est beau. Vous aurez le mot de la fin, Stéphane, en tout cas.
Il y a un guise aux roches. Hein.
Mais d'où vient cette expression vous nous le direz.
Et puis, David Cassou-Lopez, qui est vraiment dans la thématique du jour. On parle de plumes.
Bravo, David.
Et bien, lui, il va parler des stylos plumes, d'où ça vient ?
Quand j'étais petit, je pense que j'étais comme beaucoup d'enfants, j'étais snob. C'est-à-dire que j'avais tendance à bien aimer les choses, non pas parce que je trouvais que ces choses étaient bien, mais parce que je me trouvais cool de les aimer.
Oui.
Et l'un des points d'application de ce snobisme, c'était la papeterie, parce qu'on y est très confronté hein, quand on est enfant, et en particulier les stylos plumes. Bon, déjà, le stylo plume, c'était le stylo des grands, celui auquel on n'avait pas le droit tout de suite. Et comme moi, j'en ai eu un petit peu avant les autres, je me sentais déjà un petit peu aristocrate, vous voyez, un petit peu plus grand, un petit peu en avance.
Oui, ça va vite,
Stéphane. Mais même quand tout le monde a été assez grand pour en avoir un, il y avait une petite hiérarchie du cool dans le stylo plume. Et cette hiérarchie du cool, elle était pour moi définie par une seule variable, qu'il fallait être différent, parce que, comme chacun sait, être différent, c'est être supérieur. Et comment être différent avec un stylo plume? Eh bien, en gros, il y a
avec
deux variables.
Avec un Mont Blanc.
Oui,
c'est très différent à l'école, si tu te pointes avec un Mont
Blanc. Deux variables principales pour être différent avec un stylo plume. La première, c'est la marque du stylo qui définit le type de cartouche. Quatre types de cartouches. En gros, je les ai amenés ici. Voilà, je les ai amenés ici pour. Je vais les montrer à la caméra. Bon, pour ceux qui écoutent, machin, mais il y a la Waterman. Il y a.
C'est celle que j'avais, ça, la
Parker.
Waterman.
Non, moi, j'étais de l'école Parker, moi.
Ah non, voilà. Ça, c'est les Belges.
Moi, j'étais Waterman.
Waterman.
Il y a la Lamy, qu'on voit avec oui. son petit bout un petit peu plus fin, oui. et la Schaeffer, qui est ici.
Ah, très chic, la
voilà.
Schaeffer.
Exactement.
J'ai jamais eu ça, moi.
En gros, tout le monde, ou presque, écrivait avec les cartouches Waterman, qui sont les cartouches standards, avec la bille intérieure. Mais moi, je voulais être cool, alors j'écrivais avec les cartouches Schaeffer, non seulement parce que ça me permettait d'être un peu différent, mais aussi parce que c'était la forme la plus sobre. Vous voyez, c'est un cylindre parfait d'une sobriété devant laquelle la cartouche Lamy, vous voyez, par exemple, est une grande vulgarité.
Et vous étiez donc à la recherche d'un cylindre parfait. Vous avez des problèmes psychologiques, je pense, David.
Peut-être.
Qui sont manifestés dès l'adolescence,
peut-être
visiblement.
Peut-être. Vous psychanalysez un petit peu trop, je pense. Mais en tout cas, voilà, c'était, et je me sentais supérieur grâce à ça. Et deuxièmement, la couleur. Tout le monde écrivait en bleu parce que c'était la seule encre qu'on pouvait effacer. Mais moi, j'écrivais souvent en noir, justement parce qu'on ne pouvait pas effacer. Vous voyez. Et c'est très, très con. Hein,
mais non, vous étiez sûr de vos écrits.
Ouais, exactement. En fait, bon,
vous preniez tellement de râteaux avec les filles qu'il fallait bien compenser.
Mais j'avais 8 ans quand même. C'est vrai que c'était.
On vous fait un portrait dans cette émission.
Mais oui, on ne sait pas pourquoi. C'est grave.
C'est dégueulasse.
Mais je trouvais ça. Voilà, c'était très con d'écrire en noir, mais je trouvais ça moi super chic. Alors pour cette chronique, j'ai réfléchi un petit peu quand même, et je me suis dit que le stylo à plume, c'était magique. J'en ai importé un ici, et je vais faire une petite démonstration. Alors pour ceux qui regardent en vidéo, c'est cool. Pour les autres, je vais décrire ce que je fais. Quand j'ouvre mon stylo à plume comme ça, et que je tiens la plume vers le haut, voilà, je vais l'ouvrir. Avec le bruit. Voilà.
Oh oui.
Quand j'ouvre mon stylo plume et que je tiens la plume vers le haut, c'est un peu en fait comme si j'avais ouvert une bouteille de Volvic. Je veux dire, c'est un cylindre avec du liquide à l'intérieur, en l'occurrence de l'encre. Vous voyez, c'est exactement comme une bouteille de Volvic. Mais si je mets la plume vers le bas, là, contrairement à si je faisais la même chose avec une bouteille de Volvic, ça ne coule pas. En revanche, si j'appuie mon stylo sur du papier comme ça, ça va couler. Voilà, regardez, ça coule là quand je fais ça, ça coule, mais pas trop. Juste ce qu'il faut pour écrire. Et dès que je soulève la plume, hop, ça arrête de couler et ça reprend. Et un stylo plume, en fait, c'est ça. C'est une machine à faire fuir un liquide de façon contrôlée. Et vous pouvez pas imaginer comment ça a été dur pour que quelqu'un arrive à trouver la solution pour que ça marche correctement. En gros, ça a pris 4 siècles. Et pendant ces 4 siècles, on a fait des prototypes qui marchaient pas. C'est-à-dire que l'encre coulait de façon non régulière, ça faisait des pâtés, ça coulait sur les doigts, c'était dégueulasse. Et comme souvent, ce n'est qu'à la fin du 19e siècle, un moment quand même très fort en ce qui concerne les inventions, à la fin du 19e siècle, qu'on a réussi
Allemand.
À maîtriser le truc. Et le premier monsieur qui a réussi à le faire, c'était Lewis Waterman.
Je comprends mieux.
1884. Bon, je vous avoue que j'ai essayé de comprendre comment ça marchait son système. J'ai pas super bien réussi. Mais en fait, bon, si l'encre ne coule pas quand vous penchez le stylo comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'air qui rentre dans le stylo. Mais quand vous appuyez sur le stylo sur la feuille, ça laisse rentrer de l'air, ce qui permet à l'encre de couler. Elle coule un petit peu grâce à la gravité, parce que le stylo est penché comme ça, mais surtout grâce au principe de la capillarité, le même qui fait remonter le café dans le sucre quand vous le trempez.
Ah oui, voilà.
Ah, je vois,
c'est
visualise.
Alors, c'est de voir, d'écrire correctement, scientifiquement, ce que c'était que la capillarité. C'est un peu compliqué, donc je vais m'arrêter là pour l'explication. Mais le stylo Waterman, c'est devenu un succès mondial. Il a été amélioré par d'autres marques, comme Parker, par exemple, qui l'a rendu encore plus fiable. Mais en gros, les stylos à plumes qu'on utilise aujourd'hui, ils ressemblent vraiment beaucoup à ceux de Waterman. Mais il y a un truc, moi, qui me rend triste aujourd'hui.
C'est qu'ils sont jetables.
Oui, celui-ci est jetable. C'est qu'aujourd'hui, le stylo à plumes est en train de devenir un peu une antiquité. C'est-à-dire, les ventes de stylos à plumes en France, par exemple, elles ont baissé de 40% entre 2013 et 2018. Pourquoi ? Eh bien, entre autres, parce que le stylo à plume, pendant longtemps, c'était le seul stylo effaçable. Mais aujourd'hui, il y a des feutres et il y a des rollers effaçables et qui sont en train de prendre la place du stylo à plume. Mais tout de même, hier, j'ai été un petit peu ému parce que je suis allé acheter ce stylo, pour les besoins de ma chronique, au Giber Jeune du boulevard Barbès. Eh bien, quand je suis allé le chercher, il y avait une maman qui était là au rayon avec ses deux enfants de 7 et 10 ans. Et les deux, ils voulaient absolument que leur maman leur achète un stylo plume. La maman a dit non au plus petit en lui expliquant que c'était pas de son âge. Mais elle a dit oui à la fille parce qu'elle était suffisamment grande. Donc, d'une certaine façon, le cool du stylo plume en tant que stylo des grands n'est pas encore tout à fait mort. Et ça m'a fait un petit peu plaisir.
Moyennant quoi, vous avez imprimé votre chronique sur une imprimante moderne.
Tout à fait. Oui, non, parce qu'il ne faut pas déconner. C'est comme aller à Marseille en calèche, c'est très sympa. Mais bon, c'est quand même moins bien que le TGV.
Bravo. Stéphane est désolé de voir que le monde comme ça évolue, mais les traditions se perdent.
Moi j'écris, je continue à écrire.
Alors, moi,
à la main.
Plus du tout Stéphane, je suis prototypique de cette époque pourrie, je n'écris plus rien. Et quand je dois écrire quelque chose, notamment écrire un chèque par exemple, j'écris tellement mal que je dois me concentrer.
Ah, dis donc, la banque vous le renvoie. C'est
bon,
c'est
malin.
C'est pas visible.
C'est peut-être une stratégie que j'ai développée en Suisse, peut-être, effectivement. Non,
en tout cas, merci David. C'était très joli, votre chronique. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Et maintenant, les gars, un bon poulet tikka masala.
Et oui, c'est quand on va dans un restaurant indien à Paris, à Londres ou ailleurs, c'est quand même l'un
quand
des plats phares.
Quand on allait dans les restaurants indiens.
C'est l'un des plats phares de la carte. Et donc, très logiquement, on se dit, forcément, ce poulet tikka masala, il nous vient d'Inde. Eh bien, c'est pas certain. Parce qu'il y a une histoire qui est pas mal. Et moi, j'aime bien, vous savez, dans l'histoire des recettes, ces petites anecdotes un peu farfelues. Et celle-ci l'est vraiment. Et si je vous disais que c'est au Royaume-Uni et peut-être en Écosse, plus précisément, qu'est né le poulet tikka masala. Ben oui, au début du 19e siècle, dans un petit restaurant, un client n'est pas très content du poulet que vient de lui servir le cuisinier. Alors, un cuisinier d'origine pakistanaise, il s'appelle Ahmed Aslam Ali. Et le poulet revient en cuisine avec cette petite critique. Ben, le poulet, le client ne veut pas, c'est trop sec. Donc, il ouvre les placards, il regarde ce qu'il a. Il a du concentré ou de la soupe de tomate, du jus de tomate. Il a un petit peu de crème, il a des épices. Hop, 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 il mélange tout ça. Et c'est la base de ce qu'est la recette du poulet tikka masala. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite histoire ?
C'est possible, mais ce n'est pas écossais, c'est pakistanais.
C'est d'origine, évidemment, le cuisinier est pakistanais, mais c'est en Écosse qu'on aurait inventé. Alors, la recette va évoluer. Pour dire vrai, comme beaucoup de ces recettes, comme pour le curry, par exemple, il n'y a pas de recette officielle. Puisque...
Le curry, il y a 1000 currys.
Ah, il y a 1000 currys, tout comme il y a 1000 poulets tikka masala.
Quoi ?
Vous êtes véhément. Il y a 1000 currys.
Mais j'aurais pu dire même 100 000 currys, David. 100 000 currys. Je me suis même dit que j'étais
des
allé
millions.
Un peu... Des millions.
Le curry étant au départ un mélange d'épices, chacun dans chaque famille on fait un petit peu différemment. En ce qui concerne le tikka masala, c'est aussi un mélange d'épices. Et puis c'est une association très intéressante entre la volaille, le côté crémeux, et là je vais vous donner la recette dans un instant, et puis évidemment l'épice qui doit apporter un petit peu de peps. Alors pour réaliser ce poulet, 800 grammes de poulet en morceaux.
Mais pour combien de personnes ?
4 personnes.
Ah oui.
Vous en prendrez bien 200 grammes, mon cher Mathieu.
Non, 800 grammes, moi je pensais que c'était pour nous deux. D'accord.
Si on a faim, on peut y arriver. Il vous faut 2 yaourts, un jus de citron vert, un petit morceau de gingembre. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui les épices garam masala, qu'on peut acheter déjà toutes constituées, vous achetez ça au rayon épices, c'est le mélange qui contient en général coriandre, cumin, poivre, cardamome, dans des doses très, plus ou moins précises, mais très différentes suivant les régions. 2 oignons, une petite boîte de concentré de tomate, donc une gousse d'ail, 10 centilitres de crème fraîche et de la coriandre fraîche. Première opération, on fait mariner le poulet. Alors, dans les yaourts, le jus de citron et des épices. On laisse mariner ça pendant 2 heures. On va les cuire, on va cuire les morceaux de poulet ensuite au four pendant 20 minutes dans un four chaud à 180 degrés. Et pendant ce temps, on va faire une petite sauce. On va faire revenir les oignons, la gousse d'ail, le petit morceau de gingembre émincé. On rajoute le concentré de tomate, on rajoute la crème fraîche, la coriandre. Et une fois que le poulet est cuit, on mélange tout ça, on sert ça avec du riz et on a un poulet tikka masala.
Et sinon, vous avez New Jellum, 65 du Faubourg Poissonnière, 4,5 étoiles sur Deliveroo. C'est très très bon, je vous invite à commander là-bas, ça sera beaucoup plus rapide.
Et vous faites.
Oui, c'est ce que je fais. Mais pourquoi je ne suis pas le seul, vous savez.
Vous avez raison.
Et qu'il faut faire travailler les restaurateurs.
Vous avez raison, mais vous pouvez le faire vous-même.
Vous pouvez le faire vous-même, ce n'est pas très compliqué. Oui.
Il faut du temps.
Très bien,
du
temps et du talent. Merci Olivier Pouls sur votre site sur europe1.fr.
L'anguille, ce n'est pas très bon sous la dent, ça ne fond pas. Mais anguille sous roche, Stéphane Bern, d'où vient cette expression? Vous allez la décortiquer pour nous.
Au Moyen-Âge, il y avait énormément d'anguilles. Effectivement, sous chaque pierre, il y en avait une, vivant surtout la nuit. Et elle avait tendance à se cacher le jour sous les rochers, là où les amateurs de pâté d'anguilles venaient les débusquer. La Fontaine a même écrit un conte à la gloire du pâté d'anguilles.
C'est bon ça?
Bon, c'est un peu vaseux.
En francique, comprenez la langue originelle des Francs, il existait un verbe qui a maintenant disparu, guiller, qui signifiait se faufiler, éviter le combat. On reconnaît bien là l'anguille dont la majorité des espèces n'ont pas d'écailles, ce qui les rend difficiles à attraper, et on rajoute à leur image fourbe et insaisissable. Le prénom Guillaume, également, vient de ces mêmes racines. Si vous en connaissez, sachez qu'ils sont peu dignes de confiance et sournois. On embrasse Guillaume Vasseau, un des réalisateurs dédiés à Historiquement Vôtre sur Europe 1. Voilà d'où ça vient, anguille sous roche. Quittons-nous sur cette jolie citation. L'avenir est liquide, le passé solide. Le chagrin est une carpe, le bonheur est une anguille. C'est pas de moi, c'est de Jean-Louis Aubert.
Ah, c'est beau.
C'est beau, hein.
Et il y a baleine sous gravier, alors c'est pareil.
Mais ça, après, on a décliné, si vous voulez. C'est-à-dire que vous imaginez... c'est comme une puce sous un éléphant, vous voyez. C'est-à-dire qu'on fait dans l'exagération. Le gravier, c'est tout petit, la baleine, c'est tout gros. Vous imaginez la baleine sous le... Mais ça n'a rien à voir avec mon expression. Anguille sous roche, c'est parce que...
Arrêtez tout de suite. Arrêtez, Olivier, de nous emmener sur un terrain sur lequel Stéphane ne veut pas, à l'évidence, aller. Voilà, il a fini sa démonstration, il l'a fini magnifiquement. N'en rajoutez pas. Les amis,
on est obligé de tout lui expliquer.
Mais c'est comme un enfant, Olivier Pouls, comme un enfant. Stéphane, l'heure est venue de remiser votre boa et de retirer de cette zone de votre anatomie qu'on ne citera pas cette plume que vous aviez temporairement plantée pour mieux coller au thème de notre émission. Lequel de nos personnages a plume? C'est important de terminer cette émission toujours.
On m'a toujours dit que j'avais un balai, plutôt pas une plume.
Stéphane, lequel de nos personnages à plume vous a le plus fasciné, finalement, au fond? L'Indien Sitting Bull, la star du musical Mistinguett?
Écoutez, j'ai aimé les trois, mais c'est vrai que Sitting Bull, parce que ça me fait tellement de peine, vous voyez, j'en veux beaucoup aux Américains d'avoir exterminé, parce qu'ils sont les premiers à nous donner des leçons,
mais surtout
ils ont exterminé les Indiens.
Ils ne menaçaient personne,
ces
Indiens.
Non, les bisons, simplement. Oh.
On se retrouve demain, Stéphane, vous connaissez évidemment le programme, de tête peut-être, parce que je vois que vous avez déjà déchiré vos notes.
Oui, comme nos personnages de demain, j'ai modestement détruit mes propres œuvres. Demain, on réunit des artistes qui ont détruit leurs œuvres. Je vous raconterai la folle histoire de Marcel Pagnol qui a détruit à la hache les pellicules d'un film qui venait de tourner. La sculptrice Camille Claudel qui a ravagé volontairement une partie de son atelier.
Et Banksy qui a lui aussi détruit à distance une œuvre en pleine vente aux enchères à l'instant même où elle était adjugée vendue. Et d'ici demain, je vais essayer aussi, promis, de bien prononcer son nom.
Vous faites bien, non, là vous avez réussi. À demain Mathieu, chers auditeurs, à demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.